La première.
13h15, 14h30.
Un jour dans l'histoire.
Laurent de Hausset.
Nous sommes le 20 août 1857 à Paris. C'est devant la 6e chambre correctionnelle de la Seine que s'ouvre le procès de Charles Baudelaire et de ses éditeurs. Deux mois plus tôt paraissait le recueil du poète intitulé « Les fleurs du mal ». La presse choquée s'était offusquée et le procureur général avait ordonné la saisie de l'ouvrage. Le réquisitoire est prononcé par Ernest Pinard. Il accuse Baudelaire de manquer au sens de la pudeur et en outre de multiplier les peintures lascives. Il attaque l'auteur non seulement sur le fond mais aussi sur la forme. La réputation de marginal qui colle au basque de l'écrivain ne va pas jouer en sa faveur et de plus il se présente devant la cour dans une tenue négligée. La défense, elle, plaide l'indépendance de l'artiste et la beauté de l'œuvre. Mais cela ne suffira pas à convaincre la bien-pensance de l'époque. Quelques heures plus tard, le recueil est condamné pour délit d'outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs en raison de passages ou expressions obscènes et immorales. Baudelaire et ses éditeurs sont contraints à payer une amende de 100 francs chacun et de retirer 6 poèmes du livre s'ils souhaitent en poursuivre la vente. 8 mois plus tôt, le 29 janvier, le surnommé Pinard était déjà procureur général dans le procès intenté au roman de Gustave Flaubert, Madame Bovary. Ici, après un long réquisitoire, aucune charge n'avait été retenue grâce à la plaidoirie enflammée de Maître Sénard. Flaubert et ses comparses furent acquittés. Cette mise au banc de la société rapproche-t-elle ces deux géants de la littérature? Leur vie, leur œuvre nous offre-t-elle d'autres points de comparaison? En quoi, 200 ans après leur naissance, nous parle-t-il encore? Baudelaire, Flaubert, portrait croisé.
La première,
13h15, 14h30,
un jour dans l'histoire.
Les poètes illustres s'étaient partagés depuis longtemps les provinces les plus fleuries du domaine poétique. Il m'a paru plaisant et d'autant plus agréable que la tâche était plus difficile d'extraire la beauté du mal.
Un extrait du projet de préface pour la seconde édition des Fleurs du Mal en 1861. Et c'est Michel Bouquet qui interprète Charles Baudelaire dans l'émission Baudelaire par Baudelaire, une émission de France Culture. Et pour évoquer donc ce portrait de Baudelaire et de Flaubert, Daniel Salvatore Schiffer est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Professeur de philosophie de l'art à l'École supérieure de l'Académie royale des Beaux-Arts de Liège. Et vous êtes l'auteur aujourd'hui, Daniel, de l'ivresse artiste, double portrait, Gustave Flaubert, Charles Baudelaire, qui paraît aux éditions Samsa. Alors Gustave Flaubert et Charles Baudelaire naissent tous deux en 1821, le premier à la fin de l'année, le 12 décembre, le second 8 mois plus tôt, le 9 avril. Gustave meurt 58 ans plus tard en 1880, Charles à l'âge de 46 ans en 1867. Est-ce que les deux se sont rencontrés ?
Ils se sont rencontrés lors de leurs respectifs procès. Ils se sont rencontrés, ils se sont défendus mutuellement. Dans mon livre « L'ivresse artiste », vous trouverez notamment la correspondance entre Baudelaire et Flaubert, ouais. Parce qu'ils s'aimaient beaucoup, ils s'estimaient beaucoup. Et donc, lorsque Flaubert a eu son procès, Baudelaire l'a défendu, publiquement, notamment dans un superbe article en défense de Madame Bovary, dans un journal à l'époque qui s'appelait « L'Artiste », un article dithyrambique, et à l'inverse, Flaubert a défendu Baudelaire lorsque Baudelaire a eu son procès pour « Les fleurs du mal », parce qu'il se fait, comme vous l'avez très bien dit, qu'ils ont eu un procès pour outrage aux mœurs la même année, ouais. En 1857, qui est par parenthèse aussi l'année où les fleurs du mal de Baudelaire et Madame Bovary paraissent. Donc, c'est déjà un point en commun. C'est d'abord le fait que leur livre, leur chef-d'œuvre, ouais. paraît la même année. Ils ont un procès pour outrage aux mœurs la même année, sauf que Flaubert est acquitté tandis que Baudelaire est condamné. C'est une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, il viendra en Belgique, mmh. se réfugier à Bruxelles, où il logera à l'hôtel du Grand Miroir. Mmh. Et puis, il y avait surtout un ami qui était Félicien Rops. Peu de gens savent que Rops a été, à la demande de Baudelaire, celui qui a illustré la première édition des Fleurs du Mal. Sauf que c'était tellement érotique que ça a été interdit. Et donc, voilà, des points en commun entre Baudelaire et Flaubert. Il y a leur correspondance. Et puis, Flaubert a connu la mère de Baudelaire aussi. Il la rencontre à Constantinople, parce qu'à l'époque, le général Oupic, le beau-père de Baudelaire, était ambassadeur. Il était diplomate à l'Empire ottoman, ouais. ce qui va devenir la Turquie. Et donc, ils se rencontrent. Et il y a beaucoup de points en commun entre eux deux. Ils s'aimaient beaucoup, ils s'estimaient. Et puis, Flaubert a lu pas seulement les livres de Baudelaire, mais il a lu aussi, par exemple, la théorie du dandysme de Baudelaire. Ouais. Et c'est de là qu'il s'inspire pour camper le personnage, par exemple, de Gustave Moreau dans l'éducation sentimentale.
Alors, on va revenir, bien sûr, sur tous ces points en commun de ces deux hommes, sur leur relation, d'ailleurs, avec leur mère respective, qui est très passionnelle.
Absolument.
Alors, Guy de Maupassant considérait Flaubert comme son père spirituel. Il évoquera la transmission par l'auteur de Madame Bovary de son ivresse d'artiste. Alors, on rentrera dans le détail sur cette notion que vous avancez ici, mais en général, l'ivresse d'artiste, qu'est-ce que c'est ? À quoi fait référence Maupassant ?
Alors, il faut savoir que il est de notoriété publique, Gustave Flaubert est un des tout grands stylistes de la langue française. Il avait vraiment une obsession pour la beauté du style, la beauté formelle. C'est pour ça qu'il a très peu écrit, d'ailleurs, très peu de romans de Flaubert, hein, parce que pour lui, c'était la qualité qui comptait plus que la quantité. Et donc, Maupassant voit en lui, et c'est le thème de son éloge posthume, l'ivresse artiste, c'est un mot de Maupassant, ouais, qui était son principal disciple, c'est pratiquement Flaubert, qui a, entre guillemets, appris à Maupassant à écrire. Hein. Eh bien, l'ivresse artiste, parce qu'il y a une véritable ivresse chez Flaubert, c'est-à-dire une assaise à la fois et un enthousiasme, une passion pour la beauté du style, la beauté de l'écriture. Flaubert passait des heures entières, pas seulement à écrire dans la solitude la plus totale chez lui, dans sa maison de Croisset, en Normandie, près de Rouen, mais avant de publier quoi que ce soit ou de faire voir quoi que ce soit à son éditeur, il avait l'habitude de, entre guillemets, gueuler, c'est-à-dire de lire à haute voix, ouais, ce qu'il avait lui-même écrit, c'est ce qu'on appelait son gueuloir. C'était un petit espace dans son bureau. Et donc, il y a une espèce d'ivresse artiste parce que Maupassant, qui est l'auteur de cette expression, de cette formule, juge que, à raison, que Flaubert est vraiment un artiste dans la recherche de la beauté. Mmh. Et dans cette obsession, dans cette passion, c'est une vocation, c'est un sacerdoce chez Flaubert. On peut dire qu'il en est pratiquement mort. Pareil chez Baudelaire, ils ont comme point en commun, et ça aussi on ne le dit pas assez, un maître qui est le théoricien de l'art pour l'art, qui n'est autre que Théophile Gautier. Théophile Gautier qui, dans la préface à Mademoiselle de Maupin est un roman, c'est le premier roman où un auteur, un romancier, traite de l'hermaphrodisme. Et donc, c'est-à-dire ce qu'on appellerait aujourd'hui le transgenre ou le troisième genre. C'était très osé pour l'époque. Et donc, pour ne pas être accusé, comme Baudelaire ou Flaubert, d'outrage aux mœurs, eh bien, Théophile Gautier fait une préface. Et dans cette préface à Mademoiselle de Maupin, eh bien, c'est la théorie, la première théorie, au sens strict du terme, de ce qu'on appelle l'art pour l'art. C'est-à-dire un art qui s'occupe uniquement de beauté, sans nécessairement avoir un engagement politique, social, moral ou religieux. Donc il y avait vraiment cette tendance très forte chez Baudelaire et chez Flaubert d'écrire uniquement dans le souci de faire une superbe et magnifique œuvre. L'art pour l'art, justice pour la beauté, c'est d'ailleurs un des chapitres de mon livre.
Et c'est Flaubert qui écrit « Traiter l'âme humaine avec l'impartialité que l'on met dans les sciences physiques à étudier la matière, on aura fait un pas immense, c'est le seul moyen à l'humanité de se mettre au-dessus d'elle-même. » Il y a ce désir d'élévation chez Flaubert, est-ce qu'il est présent aussi chez Baudelaire ?
Ah oui, il ne faut pas oublier une chose, c'est que Flaubert et Baudelaire sont tous les deux nés dans un climat, dans une atmosphère catholique, très chrétienne et même très pieuse. Ouais. Et donc, même quand ils ont voulu s'en déprendre, ils ont toujours été extrêmement touchés, extrêmement conditionnés, influencés par cette veine, sinon catholique, en tout cas chrétienne. D'ailleurs, Baudelaire, poète impie parmi les impies, il meurt avec l'extrême onction dans les bras de sa mère, après avoir vociféré ses fameux crénoms. Eh bien, c'est pareil Flaubert. Flaubert écrit quand même « La tentation de Saint-Antoine », qui est l'histoire d'un mystique qui est déchiré entre le fait, son dévouement à Dieu, à la religion, à une transcendance, et puis ses penchants, ses faiblesses humaines. C'est le fameux dualisme entre l'âme et le corps, entre l'aspect divin et l'aspect charnel, sinon diabolique. Ça se voit très fort chez Baudelaire. Baudelaire est constamment tiraillé entre ce paradis réel et puis le paradis artificiel, qui est le paradis artificiel, qui est d'ailleurs le titre d'un de ses livres, c'est le vin, c'est l'opium, c'est le hashish, mais c'est aussi tout simplement l'art. Et au moment où, après Nietzsche, ou juste avant Nietzsche, on proclame la mort de Dieu, c'est-à-dire l'annulation de toute référence divine, la seule transcendance qu'il nous reste, ben c'est celle de l'art. Et donc, il y a une espèce de divinisation, j'emploie un néologisme, de l'art chez Baudelaire et chez Flaubert, parce que c'est là qu'ils retrouvent le Dieu chrétien de leur enfance.
Et puis il y a aussi quoi, une certaine désillusion par rapport à l'humanité. Le 14 août 1853, Flaubert écrit à son amie, qui est une femme de lettres aussi, Louise Collet, cette phrase choc, hein, « L'humanité nous hait, nous ne la servons pas et nous l'haïssons car elle nous blesse ». Désillusion de la chose humaine ?
Oui, désenchantement en tout cas. Mmh. Il y a chez Baudelaire et chez Flaubert des phrases terribles hein, à l'encontre de l'humanité. Ce sont deux poètes ou deux écrivains que l'on pourrait dire, et c'est un des aspects d'ailleurs que je ne partage pas chez eux sur le plan politique, malgré l'admiration, sinon la vénération que j'ai pour Flaubert et surtout Baudelaire, il y a un côté parfois réactionnaire chez eux, il faut bien le dire. Hein. Il y a des aspects rebutants, leur misogynie par exemple. Hein. Ce sont des gens qui aujourd'hui seraient peut-être mis à ce qu'on appelle la droite, hein. Je ne dis pas l'extrême droite, mais en tout cas ce sont des gens de droite, en tout cas conservateurs. Et donc, oui, c'est un désenchantement, une désillusion, mais en même temps, il faut dépasser cela, parce qu'il y a une profonde humanité dans l'aspect compassionnel. Enfin, Baudelaire est quand même celui qui a écrit « Le vin des pauvres ». Il hait la démocratie, il part de la marée montante de la démocratie qui nivelle tout par le bas. C'est une expression de Baudelaire dans Le peintre de la vie moderne, écrit en 1863. Mais en même temps, il y a un côté compassionnel chez Baudelaire et chez Flaubert. Mais il faut lire entre les lignes, aller au-delà du texte proprement dit, aller au-delà de la lettre pour voir l'esprit. Ce sont deux grandes âmes, et donc à ce titre extrêmement complexes et difficilement réductibles à des schémas ou des clichés ou des stéréotypes que l'on voit, à mon avis, trop souvent, notamment chez un auteur dont je ne citerai pas le nom aujourd'hui, qui a écrit un livre sur Baudelaire, qui, à mon avis, est rempli d'inepties, c'est-à-dire c'est une caricature, quoi. Parce que justement, ça manque de cette profondeur philosophique, théologique et esthétique qui, à mon avis, caractérise l'œuvre de Flaubert et de Baudelaire.
Alors Baudelaire est un des penseurs du dandysme. Hein,
oui.
C'est Daniel Salvatore Schiffer. Est-ce que Flaubert l'est tout autant ? C'est ce que l'on va voir avec vous.
Ce qui me semble beau, ce que je voudrais faire, c'est un livre sur rien. Un livre sans attache extérieure, qui se tiendrait de lui-même par la force interne de son style, comme la terre, sans être soutenue, se tient en l'air. Un livre qui n'aurait presque pas de sujet, ou du moins où le sujet serait presque invisible, si cela se peut. Les œuvres les plus belles sont celles où il y a le moins de matière. Plus l'expression se rapproche de la pensée, plus le mot colle dessus et disparaît, plus c'est beau. Je crois que l'avenir de l'art est dans ses voies. C'est pour cela qu'il n'y a ni beau ni vilain sujet, et qu'on pourrait presque établir comme axiome, en se posant au point de vue de l'art pur, qu'il n'y en a aucun, le style étant à lui tout seul une manière absolue de voir les choses.
Un jour dans l'histoire, sur la première,
Laurent de Hausset.
Voilà la confirmation de ce que vous disiez, hein, Daniel Salvatore Schiffer. Ici un extrait de la correspondance de Flaubert à cette fameuse Louise Collet. Alors Baudelaire, on le disait, a donné sa propre définition du dandysme. Daniel, quelle est-elle ?
Alors l'aphorisme de Baudelaire n'est pas loin de celui d'Oscar Wilde. Hein. Donc c'est l'art pour l'art, c'est faire de sa vie une œuvre d'art, et de sa personne une œuvre d'art vivante, et si possible même de sa mort une œuvre d'art. Sauf que les dandys en général finissent mal. En tout cas, l'histoire nous le montre, que ce soit Lord Brummel, que ce soit Baudelaire, que ce soit Byron, que ce soit Baudelaire lui-même, bien sûr. C'est faire de sa vie une œuvre d'art et de sa personne une œuvre d'art vivante, ou en tout cas c'est vouer sa vie et son œuvre à la beauté. Ce sont, comme je le disais, des théoriciens de l'art pour l'art. Il y a une espèce d'idéalisme chez Baudelaire et chez Flaubert. Ce sont, comme je le dis parfois, des dieux profanes. C'est une espèce de mystique athée, si vous voulez. Cette recherche absolue du beau avec un grand B, pratiquement au sens où Platon parlait du vrai, du bien et du beau, eh bien, il y a ça chez eux. Il y a un idéalisme très très profond qui caractérise leur œuvre. Et cette lettre que vous avez citée et que vous avez mentionnée là maintenant de Flaubert à Louise Collet, qui était son grand amour, conflictuel bien sûr, mais enfin peut-être l'amour de sa vie, eh bien, et dans mon livre aussi, cette espèce d'élévation, c'est pour ça que je parlais de transcendance au sens fort du terme, un dépassement de la condition humaine et du désenchantement que peut générer la société au sein d'un artiste, le dépassement de la souffrance humaine, de la souffrance interne, des angoisses angoisses et des tourments à travers l'art et, dans leur cas, de l'écriture.
Avec aussi, chez Baudelaire, un paradoxe, en tout cas peut-être une difficulté pour nous à comprendre son rapport au bien et au mal. Et Jean-Paul Sartre, l'un des pères de l'existentialisme, en parle dans une biographie consacrée à Baudelaire. « Ne l'oublions pas, dit-il, c'est en faisant le mal consciemment et par sa conscience dans le mal que Baudelaire donne son adhésion au bien. » Donc, alors, est-ce qu'il y a confusion des deux? En tout cas, il faut éclaircir cela, Daniel.
Oui, alors j'en parle. Je suis très content. Ça, c'est très rare qu'on mentionne cela. Ça, ce que vous avez dit, c'est Jean-Paul Sartre dans son livre sur Baudelaire, hein, qui, à mon avis, un des plus beaux livres sur Baudelaire. C'est paru, pour ceux qui veulent se le procurer, en poche, dans la collection Folio, Gallimard Folio. Eh bien, oui, c'est-à-dire qu'il y a un tel idéalisme chez Baudelaire, il y a un tel souci d'élévation et une telle recherche du divin, comme chez Flaubert, que ne pouvant pas l'atteindre, eh bien, par désespoir, par défi ultime et suprême, on se vautre dans son exact contraire, c'est-à-dire dans le mal. C'est ce que j'appelle le Dieu paradoxal. J'ai écrit beaucoup là-dessus, notamment dans mon livre sur le dandysme, l'étude qu'en fait Sartre de Baudelaire. Donc, c'est une espèce de Dieu paradoxal. Il ne faut pas oublier que chez Baudelaire, à mon avis, ce qui résume le mieux la pensée et l'esprit de Baudelaire, et que Flaubert fait sien d'ailleurs, c'est Dans mon cœur mis à nu, qui est un de ses deux journaux intimes. Baudelaire a publié deux journaux intimes, Fusée et Mon cœur mis à nu en 1863. Et que dit Baudelaire? Pour vraiment comprendre Baudelaire, c'est la phrase. C'est ce qu'il appelle la double postulation simultanée. Il y a, je cite de mémoire, mais pratiquement exactement, il y a dans tout homme, à toute heure, deux postulations. L'une, invocation à Dieu, est une joie de monter en grade. L'autre, invocation à Satan ou à l'animalité, est une joie de descendre. Et donc, c'est un être paradoxal, je dirais oxymorique. Le dandy baudelairien est un être d'oxymore. C'est un clair-obscur, comme je dis, en chair et en os. Il y a à la fois le souci de s'élever vers les sphères célestes, apolliniennes, comme dirait Nietzsche, et en même temps une attirance irrésistible vers les forces du mal ou vers les forces diaboliques ou sataniques, c'est-à-dire les forces dionysiaques, comme dit toujours Nietzsche. Et on voit ça notamment chez un auteur qui affectionnait Baudelaire, c'est Barbey de Revilly, dans Les Diaboliques. On voit, mais ça c'est très 19e, hein. On voit cette constante élévation vers Dieu, ce désir en tout cas, mais en même temps cette attirance vers les forces obscures, c'est-à-dire dans ce qu'est l'être humain.
C'est le romantisme.
C'est
ça,
le romantisme, ouais. C'est le romantisme, mais revu à travers le symbolisme. Parce qu'aussi bien que Flaubert que Baudelaire, ce sont des anti-romantiques. C'est très bien vu chez Huysmans dans À rebours, qui est un des plus beaux livres, une des plus belles analyses entre autres de Baudelaire, mais il parle aussi de Flaubert, hein, Huysmans. Et donc c'est cette double postulation simultanée qui caractérise vraiment Baudelaire et Flaubert, et chez Flaubert ça se voit dans notamment la tentation de Saint-Antoine. Et alors peu de gens savent aussi que normalement Boulevard et Picuchet devait se terminer, c'est inachevé, sur un éloge du dandysme. Et voilà, donc forcément c'est très important chez eux, cette double postulation, cette double onction.
Alors, voilà. Il y a aussi peut-être une double postulation dans le fait que vous disiez, alors ce sont des conservateurs, parfois même conformistes, oui. Or dans le dandysme, l'esprit d'indépendance est extrêmement important, il est nécessaire.
Oui, oui, parce que en fait, ce qu'est Baudelaire, c'est un mot peut-être qui aujourd'hui a une connotation négative, ce sont des élitistes. Mm-hmm. Ce sont des élitistes, c'est-à-dire que leur recherche de la beauté fait qu'il y a une espèce de mépris pour ceux qui ne touchent pas la beauté. Mais encore une fois, il faut mettre des nuances, hein. Ce sont des êtres extrêmement complexe, c'est extrêmement nuancé, c'est très fin. Et donc, oui, un côté conservateur chez Flaubert et chez Baudelaire, c'est une des autres choses qui les lie, mais en même temps, il y a un aspect rebelle, anticonformiste. Je dis souvent que le dandy est un être libre, libertaire et libertin. Alors quand je dis libertin, c'est au sens des érudits du XVIIe siècle, c'est-à-dire la libre pensée. La libre pensée, c'est le libertinage érudit. C'est la libre pensée, c'est la pensée critique. Donc ce sont des êtres éminemment libres et libertaires, presque anarchistes. Libertaires dans ce sens-là, ce sont des anarchistes de luxe. En tant que dandy, si vous voulez. Voilà une métaphore que j'aime.
Indépendance, singularité, parfois contradiction, on l'a dit, insanité, mépris aussi. Baudelaire et Flaubert sont-ils dans le même bateau? C'est ce que l'on va voir avec Daniel Salvatore Schiffer.
Le goût de la métaphysique, la connaissance des différentes hypothèses de la philosophie sur la destinée humaine ne sont certainement pas des compliments inutiles, non plus que cet amour de la vertu, d'une vertu abstraite, stoïcienne ou mystique, qui est posé dans tous les livres, dont l'enfance moderne fait sa nourriture, comme le plus haut sommet où une âme distinguée puisse monter. Si l'on ajoute à tout cela une grande finesse de sens que j'ai omise comme condition surérogatoire, je crois que j'ai rassemblé les éléments généraux les plus communs de l'homme sensible moderne, de ce que l'on pourrait appeler la forme banale de l'originalité.
Un jour dans l'histoire.
Voilà, Michel Bouquet qui interprète ici Charles Baudelaire dans cette émission de France Culture en 1967. Alors Charles Baudelaire, on l'a dit, Daniel Salvatore Schiffer n'est pas à une contradiction près, pas même non plus à une insanité près. Vous évoquiez tout à l'heure son refuge en Belgique. Et puis il y a son texte, un pauvre Belgique, ce pays de singes, des singes. C'est une faute de goût pour un dandy?
Oui, je n'aurais pas dit ce qu'il a dit de la Belgique. Hein. D'ailleurs, je suis très heureux de publier ce livre, Les Artistes, aux éditions Samsa, qui est un éditeur bruxellois, ouais. Un des derniers et rares éditeurs bruxellois, qui est une manière de rendre justice à travers mon cher Baudelaire à la Belgique. C'est une manière de venger, si vous voulez, entre guillemets, avec bienveillance, bien sûr, ce que Baudelaire a pu dire comme extrémité, incongrue même, hein, par rapport à la Belgique. Mais vous savez, il y a beaucoup de grands hommes qui parfois ont été petits dans certains, beaucoup de grands hommes dans l'esprit, je veux dire, qui parfois se sont révélés un peu mesquins dans la vie. Mais bon, j'essaie de faire la part des choses entre l'artiste et l'homme, comme d'habitude. Alors, ce que vous avez cité, ce que Bouquet dit de ouais. Baudelaire, hein, pour finir l'analyse du dandysme, il y a ce mélange, donc cette double postulation simultanée, c'est vraiment un mélange.